Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et on se retrouve après cette courte puce pauvre, bah, effectivement, il faut bien payer le loyer. Et on se retrouve du coup avec Christine. On t'écoute, Christine.
Oui, ben en fait, US of A, c'est un peu un petit retour là, sur ce qui s'est passé dans les deux dernières semaines du côté du sud de la frontière. Mais avant d'aller du sud de la frontière, je vais juste rester de notre côté de la frontière un peu, puis dire un félicitations à Mark Carney, notre nouveau premier ministre, là, pour ceux qui n'auraient pas suivi les nouvelles dernièrement. Donc, on a une nouvelle personne qui va pouvoir aller talon à talon avec Trump et voir ce que ça va donner.
On espère.
un gros espoir. Donc, dans les deux dernières semaines, il y a eu énormément de choses qui sont passées aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, je vais passer relativement rapidement sur chacun des points, là, pour question de temps, en fait. Là.
Ouais,
parce que j'aurais pu carrément prendre 2 heures au complet pour parler de ce qui s'est passé dans les deux dernières semaines. Mais commençant directement avec lundi, le 24 février, Musk, a envoyé un ultimatum aux employés fédéraux. Donc, il avait envoyé un courriel... C'est un peu drôle parce que c'est la gang qui était très contre le serveur de courriel de Hillary Clinton sur un serveur privé, qui, eux, maintenant, envoient un courriel d'un serveur semi-privé pour demander aux employés fédéraux ce qu'ils ont fait dans les dernières journées. Donc, ils ont demandé d'avoir un courriel avec les 5 choses qu'ils ont faites dans les dernières semaines. Il y a plusieurs agences fédérales, dont le FBI et le département de la santé, qui ont conseillé à leurs employés de ne pas répondre. Et évidemment, tous les employés là, qui avaient des choses confidentielles n'avaient pas à répondre là-dessus. C'était un peu confus. L'Office du Personal Management a déclaré que la demande était volontaire, mais Trump, lui, affirme que ce serait vraiment... serait semi-licencier les personnes qui ne répondraient pas. Donc, c'est un petit peu... un petit peu difficile à comprendre de ce côté-là.
Juridiquement, ce flou...
C'est un gros flou, disons-le. Puis côté juridique aux États-Unis, c'est difficile aussi parce que, je vais en parler un peu plus tard, là, mais Trump ne respecte pas nécessairement les restraining orders temporaires là, par rapport à certaines choses qu'ils ont faites.
Mais il n'y a pas une loi du travail existante qui peut apporter une certaine protection sur ça ou il a déjà apporté un décret dessus et...
Non, mais par rapport à ça, en fait, les personnes qui ont été licenciées par rapport à ce courriel-là, puis il y a d'autres choses aussi. Dernièrement, là, en fait, la semaine dernière, la Cour a s'assuré que c'était illégal, donc ils vont retourner au travail avec le back pay et tout ça. Là. Donc, toujours lundi, Trump a rencontré Emmanuel Macron à la Maison-Blanche. Donc, Macron insiste à la nécessité de garantir une sécurité pour l'Ukraine avec tout accord de paix. Il y a vraiment une divergence.
Comme j'avais dit précédemment, moi, je trouve que les États-Unis, spécifiquement, ils ont une envie d'ignorer le conflit, mais ils sont inintéressés dessus parce qu'ils cherchent avant tout à renouer des liens forts avec la Russie.
Mm-hmm.
Quand je dis ça, je débranche mon cerveau, je parle purement d'analyse et de faits. Actuellement, les États-Unis se voient menacés par un pays, c'est la Chine, et ils essayent avant tout de faire un blocus entre les relations Chine et Russie.
Oui, ben le BRICS, en fait. Mais justement, la conférence de presse, Trump il a exprimé son admiration là, pour Vladimir Poutine devant Macron. Donc, c'est un petit peu étrange comme situation. Il y a eu aussi des sanctions économiques qui ont été portées contre l'Iran. Donc, Trump a imposé des sanctions à des entreprises de la Chine, d'Inde et des Émirats arabes accusés de commerce illégal avec le pétrole iranien. Il y a un juge fédéral aussi du côté de l'immigration qui a suspendu les nouvelles règles de Trump autorisant les arrestations dans les lieux de culte. Donc, il y avait eu plusieurs arrestations massives, là, comme on avait vu avec ICE, qui déportait des gens. Trump a officiellement soutenu Vivek Ramaswamy, qui était censé être le co-chef de Doge avec Musk pour le poste de gouverneur de l'Ohio. Ensuite, on se transporte à mardi. Donc, l'administration fédérale, pour le courriel, là, il y a plusieurs agences fédérales, comme je disais plus tôt, qui ont refusé d'obéir là, à Musk par rapport au courriel. Musk a exprimé sa frustration là, par rapport à ça sur les réseaux sociaux, qualifiant les fonctionnaires de paresseux et d'inutiles. Donc, ça commence bien la semaine. Ouais. Il y a eu plusieurs tensions avec la presse. Donc, un juge a refusé d'accorder une injonction pour empêcher l'exclusion de journalistes du Associated Press, qu'eux, ils avaient refusé d'appeler le golfe du Mexique le golfe de l'Amérique.
Ouais, ça, j'ai vu, c'est un truc de fou.
Ouais, donc Trump, il avait décidé de leur enlever leur press pass, dans le fond, là, pour la Maison-Blanche.
Bah, mais... c'est même pas pas ça, c'est même le Mexique a porté plainte auprès de Google vis-à-vis de ça.
Oui, ben c'est ça. Mais spécifiquement pour l'Associated Press, c'est vraiment Trump là, qui avait décidé de retirer là, parce qu'il se trouvait insulté là, que l'Associated Press ne respectait pas sa décision. La Maison-Blanche aussi opposait son veto à une résolution de l'ONU qui condamnait la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Et Trump a rencontré le secrétaire général de l'OTAN pour discuter du financement de l'Alliance. Ensuite, mercredi, le 26 février, il y a un juge fédéral qui a remis en question la constitution des pouvoirs d'Elon Musk par rapport au Doge. Et la Maison-Blanche a minimisé ses préoccupations et Musk a continué de restructurer les agences fédérales. Du côté de l'Ukraine, Trump a mentionné que Zelensky pourrait venir à Washington. Donc, le 27 février, le jeudi, dans l'affaiblissement là, des agences fédérales, Musk, de son côté, le département du Trésor a confirmé une suppression de 6700 emplois au l'IRS, donc l'Agence du revenu, avec les coupures budgétaires. Donc, il y a eu beaucoup là, de critiques qui disaient que ça pourrait augmenter le déficit parce qu'évidemment, on ne pourrait pas faire la collecte d'impôts correctement. Du côté des relations internationales, le Kremlin a salué les efforts de Trump pour négocier avec la Russie. Et Poutine propose que les entreprises américaines exploitent des ressources naturelles en Russie et en Ukraine.
Mais il y a une vraie opposition. Pour te dire à titre d'exemple, oui. Je parlerai d'un cadre universitaire, il faut comprendre quelque chose, c'est que tu as l'impression qu'en plus de ce conflit médiatique, et je n'espère pas réel, il y a un conflit aussi qui se base sur plusieurs autres thématiques. Je ne vais pas toutes les dire parce que je ne vais pas prendre trop le temps sur ton émission. Mais il y a aussi sur les brains... j'ai oublié le terme, les fuites de cerveau. Faut savoir que Trump a décidé de déduire aussi énormément les investissements de recherche universitaire.
Oui.
Et en réponse à ça, les Français ont décidé du coup de mettre en avant des profilations ou des parcours spécifiques qui permettraient de prioriser, de rendre une dynamique intéressante le recrutement de chercheurs universitaires américains et de faire des passerelles spécifiques en France. Par exemple, l'université d'Aix en Provence et Aix-Marseille aussi s'est proposé du coup à avoir un parcours spécifique pour les chercheurs provenant des États-Unis pour venir en France et avoir des financements dans le cadre de la recherche plus facile et plus éligible et plus intéressant aussi par rapport aux États-Unis. Donc ouais, il y a une joute. Vraiment, c'est moi je pense que
ben c'est le soft power en fait des États-Unis qui commence à s'effriter un peu. Donc le hard power.
Oui et non.
Ben en fait le hard.
Le hard power, oui.
Le hard power, qui est le militaire en fait. Oui. Les États-Unis l'ont toujours, mais le soft power, c'est un peu le pouvoir qu'ils ont sur la culture, sur la technologie et tout ça. Ça, on commence à voir d'autres pays là, qui commencent à.
Moi, je dirais qu'actuellement, on n'est pas encore sur une perte de soft power, mais que c'est les points qu'essayent d'attaquer plusieurs pays ou continents à l'échelle internationale vis-à-vis des États-Unis.
Donc
on n'est pas actuellement dans une perte, hein, je trouve, personnellement.
Ben, du côté de l'Europe, là, avec les présidents qui prennent le côté de Zelensky, tout ça, il y a quand même un shift un peu là, qu'on voit là, vraiment qui peut se faire. Toujours aux États-Unis, en fait, là, bon, donc le vendredi 28 février, il y a eu des pressions sur l'Ukraine. C'est là qu'on a commencé à voir l'entente qu'il voulait avoir avec Zelensky. Donc, Trump a demandé à l'Ukraine que l'Ukraine cède 50 % de ses revenus miniers en échange du soutien militaire. Zelensky a refusé ça, mais il allait pour négocier le lundi à Washington. Il y a eu toujours Musk, toujours en affrontement avec les agences fédérales. Donc, il y a plusieurs responsables fédéraux qui ont dénoncé Musk de faire de l'ingérence et qui a un manque de légitimité légale pour prendre des décisions gouvernementales. Samedi et dimanche, donc 1er et 2 mars, c'était la rencontre du CPAC, donc Conservative Political Action Conference, donc où un rassemblement conservateur, là, un méga rassemblement du côté des conservateurs, où est-ce que le président de l'Argentine, Javier Milei, a donné une scie à chaîne à Musk sur la scène. Là, c'était génial. Ensuite, lundi, il y a eu la merveilleuse rencontre avec Trump et Zelensky. C'est très mal fini, en fait. Là. Il y a eu mardi plein de renvois aussi qui se sont faits du côté de l'administration fédérale qui se faisait toujours couper là, du côté de Musk. Il y a toujours des tensions du côté de la Chine avec les hausses tarifaires. On a vu aussi là, justement les tarifs donnés par Trump qui sont rentrés et qui sont ressortis tout de suite après. Ensuite, vers la fin de cette semaine-ci, là, le 7 mars, Trump prépare un voyage en Russie. Donc, il y a des rumeurs qui mentionnent que Trump irait à Moscou rencontrer Vladimir Poutine. Trump a fini sa semaine là, en ayant des meetings politiques en Floride, donc un gros rassemblement à Orlando vendredi et samedi en Floride aussi là, pour lutter contre la bureaucratie, restriction de l'immigration et tout ça.
OK. Vis-à-vis de ça, est-ce que tu souhaiterais porter une conclusion sur cette partie-là?
Bien, ça a été deux semaines très occupées aux États-Unis, comme d'habitude. Pour faire peut-être un petit callback là, sur les médias et tout ça, là, c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent que ça devient difficile pour les journalistes mm-hmm. là, de cadrer un peu là, vraiment dans qu'est-ce qui est important, puis de donner toute l'information, mm-hmm. mais en même temps donner l'information complète là, mm-hmm. dans tout ce qui se passe.
C'est pour ça qu'on essaye de désister de soulager leur épaule, là, c'est fuck. En tout cas, on se retrouve après une petite écoute musicale et une courte pause pub. Et on reprendra du coup avec du coup, la Journée internationale des droits des femmes. Et oui, ça sera avec Christine au début et moi qui m'attaquerai à vous, car sachez-le, une voix était unanime et c'était sur le droit des femmes.